RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, c'est avec vous que ça se passe, bien sûr, au 32-16 pour discuter, pour témoigner, pour prendre la parole. Joël Dagosséry, la coach de Villela, tout comme l'avocat Charles Consigny et Mohamed Boudjela, l'éditeur de bande dessinée. C'est la deuxième heure des GG, de quoi va-t-on parler? De 2 Français sur 3 aujourd'hui qui utilisent l'intelligence artificielle. Ils avouent eux-mêmes, c'est 60% de Français, ne pas pouvoir s'en passer. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce qu'on est déjà tous accros à l'intelligence artificielle et du coup, on devient peut-être un peu feignant dans la réflexion? Vous venez en parler à 11h moins 20.
Vous entendrez la confession bouleversante de Joël Dagosséry sur ce sujet.
À 10h20, la petite phrase de Xavier Bertrand hier sur BFM TV. Difficile de vivre en France quand on est musulman, juif ou pas blanc de peau. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il appuie là où ça fait mal? Xavier Bertrand, lucide. On en discute, bien sûr. Mais d'abord, on va s'intéresser au téléphone au volant et aux suspensions de permis immédiates.
J'ai mon permis, je suis content. Au volant de ma petite bagnole, je suis comme un pilote en plein vol. Contravention, explication. Indignation, limitation, superpollution.
C'est-à-dire que là, les explications, quand vous avez le téléphone au volant et que vous vous faites gauler, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est la suspension immédiate. C'est déjà en vigueur dans 8 départements. Est-ce qu'on doit généraliser, oui ou non, 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules?
Oui, dans ces 8 départements, c'est tolérance zéro pour le téléphone au volant. Et depuis le 1er janvier de cette année, plus de 500 permis ont déjà été suspendus, dont 21 dans le Pas-de-Calais, 38 dans le Lot-et-Garonne. Mais la palme revient au département des Landes, qui a le record, premier département à avoir mis en place cette sanction en novembre 2025, où 400 permis ont été suspendus, rien que pour les Landes, ça fait beaucoup, hein. Alors bien sûr, ça pose un problème parce que la voiture, c'est un outil de travail. Donc quand on suspend le permis, eh bien, on crée quand même de grandes difficultés. Et ça fait exploser aussi le nombre de conducteurs sans permis. Parce que là aussi, on a un triste record. On a plusieurs centaines de milliers de personnes en France qui roulent chaque jour sans permis. Et c'est peut-être l'effet pervers de cette répression au volant. Alors, est-ce qu'il faut étendre cette mesure et, dans tous les départements, appliquer ce principe de tolérance zéro pour ceux qui roulent avec le téléphone au volant?
32-16 pour le dire au Gijo Gagnol, Mourad.
C'est du racket détourné. Autant j'ai beaucoup de respect pour la protection routière et pour toutes les victimes d'agresseurs en état d'ébriété ou portable, mais il y a des mesures autres que racketter les gens pour faire en sorte que de diminuer la mortalité et les accidents routiers. Il suffit de renforcer les sanctions de façon très lourde.
Bah là,
très lourde.
Là, c'est une sanction.
Non,
là.
Ça c'est pas une sanction. Ça c'est de l'impôt. C'est différent. Si par exemple tu expliques que celui qui a un accident avec le téléphone au volant, il se prend 6 mois de prison, tu vas voir que ça va beaucoup mieux marcher que les réductions que de payer une amende ou avoir une suspension de permis pour ton portable. Mais ça rapportera beaucoup moins parce que ça coûtera même. La prison, ça coûte. Donc une fois de plus, c'est l'État, c'est de la manipulation. Il nous donne un.
Je crois pas
à
l'efficacité de ce genre de mesure.
Plutôt pieux, le prétexte, mais derrière, c'est-à-dire que de l'impôt. C'est que l'impôt qui les intéresse. C'est comme les radars. Il y a des mesures qui seraient beaucoup plus efficaces, mais beaucoup moins rémunératrices pour l'État, et ça les intéresse pas.
Joël?
Non, moi, je pense qu'il faut choisir téléphoner ou conduire à un certain moment.
Mais boire ou conduire, on a choisi, vu le prix de l'essence.
Hein. On peut pas tous être au téléphone. Moi, je suis déjà au téléphone pendant que je traverse la route, ou avec mes écouteurs, donc je surveille pas beaucoup la route.
Ah.
Si en plus le conducteur il est au téléphone, je veux dire, il faut choisir. Et je pense que le conducteur est plus dangereux que moi. Comme ça, moi je peux rester au téléphone. Mais je veux dire, bah oui, non mais c'est la vérité parce que c'est vrai qu'on parle des conducteurs, mais je veux dire on est vraiment tous quasiment tous au téléphone. Assieds-toi dans le métro, tu vas voir. Il y a, la dernière fois, j'ai ouvert un bouquin. Oui, autant il y a 5-6 ans, on était beaucoup à être comme ça. Autant là, j'ai regardé rapidement. J'étais la seule à avoir ouvert un bouquin dans les transports.
Il y a même, donc, tu as même, je crois que c'est sur Instagram, des gens qui filment les piétons qui se télescopent.
Ah, mais
ils sont chacun sur leur portable, ils regardent pas où ils marchent.
Ce qui arrive dans la rue.
Mais complètement. Et moi, quand je suis au téléphone, quand je traverse la rue, je fais confiance aux voitures pour s'arrêter. Donc. Je suis à part un peu naïve.
On n'aura peut-être pas besoin de quitter la France.
Est-ce que c'est efficace?
On vit les dernières semaines de Joël.
C'est émouvant. Non, mais c'est la vérité. Je dis la vérité. Je suis pas très attentif parce que je suis au téléphone. C'est vrai. Et donc, je compte sur les automobilistes pour être discipliné au téléphone.
Quand vous téléphonez au volant, vous avez des temps de réflexe qui sont multipliés par deux. Donc, des distances d'arrêt de réaction qui sont aussi multipliées par deux. Vous avez un champ de vision qui est réduit de 35% de votre attention, qui est réduite de 40%. Voilà ce que c'est de téléphoner au volant. Donc, les professionnels de la sécurité routière disent, c'est un danger. C'est un danger de rouler en téléphonant.
Et il m'arrive parfois d'appeler des fois une cliente qui est au volant. Elle me dit, ah bah, je suis au volant. Je lui dis, je te rappelle. Elle me dit, non, mais ça va. Donc, voilà, il y a plein de gens qui sont au volant et qui pensent qu'ils gèrent, en fait.
Alors, ils disent que l'attention, même avec le Bluetooth, est quand même... En fait, c'est simplement le fait de téléphoner dans ta voiture. Ouais. C'est pas forcément d'avoir le téléphone au volant.
Je trouve que ce qui est très dangereux,
dans la voiture, quand tu conduis ta petite voiture dans le Jura, ton téléphone, il est où?
Il est dans la portière, honnêtement.
Ouais.
Parce que je trouve que ce qui est dangereux, c'est de manipuler son téléphone pendant qu'on
les
conduit.
Les textos, je suis d'accord.
C'est ça le plus dangereux, c'est d'envoyer un message ou même de rentrer un GPS ou machin, une destination GPS.
Oui, sur la
c'est
douche,
ça qui est le plus bon. En revanche, passer des coups de fil en main libre, honnêtement, moi, je vois pas la différence avec parler avec quelqu'un qui est dans la bagnole. Je vois pas en quoi ça... Alors peut-être que les études scientifiques montrent que ça diminue un peu ton attention, mais ça, je trouve pas ça particulièrement dangereux. Mais c'est plus dès que tu vas devoir, par exemple, ne serait-ce que raccrocher après le coup de fil ou machin... c'est tous ces moments où tu n'es pas à 100% focus sur la route qui sont dangereux. Mais sinon, je trouve pas ça gênant.
Tu devrais être interdit de se disputer avec sa femme ou son mari dans la voiture, pareil.
Oui, parce que, en fait, c'est la nature de la conversation qui va peut-être faire baisser tes réflexes. Toutes les conversations ne sont pas, je veux dire, si t'appelles juste pour dire, oui, chérie, je vais chercher le pain, ok. Par contre, t'es en train de débattre d'un truc qui te prend émotionnellement, etc., ou qui te demande de vraiment de mettre ton attention dessus,
Sauf que là, c'est quand tu fais la conversation avec la personne qui est assise à côté de toi, elle voit aussi la route. Donc elle peut s'arrêter, si elle voit un danger arriver, elle va aussi arrêter de discuter.
Ouais,
alors que la personne qui est au téléphone, elle sait pas où tu es précisément, donc la conversation continue et tu vas peut-être t'auras du mal à dire attendez, il se passe un truc sur la route, c'est ça le problème de la conversation à distance.
Ah, le tout c'est de savoir si cette sanction
de réaction
qui est forte hein, parce que c'est la suspension immédiate, si c'est une bonne chose ou pas.
Non, la suspension c'est violent.
Je trouve que c'est trop parce que
ça crée des conducteurs sans permis.
Il faut arrêter d'emmerder les gens quand même. Et on en a parlé tout à l'heure, ils sont déjà suffisamment emmerdés comme ça. Je pense que
il y a mise en danger.
Ouais. Oui, mais un coup de sifflet du gendarme.
Mais il y en a pas.
Il y a pas de coup de sifflet.
Il y en a quand même pour suspendre les permis.
Suspendre le permis. Comment tu veux qu'il fasse?
C'est pas grave.
Il y a un contrôle.
Il y en a de moins en moins des gendarmes sur la route, justement. C'est ça le problème.
Je pense que la sanction, je rejoins Mourad.
Il y a plus de circulation. Plus d'agents de circulation.
Une sanction plus forte.
Plus forte. Mais moi, je pense que l'argent, ça joue quand même. Parce que 500 euros, si par exemple, je suis commercial ou je suis chef d'entreprise et que je suis en train de discuter d'un truc et que le sujet de discussion va me faire gagner, je sais pas moi, 10 000 euros, je m'en fiche de tes 500 euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut peut-être pas enlever la suspension, c'est un peu trop.
Bien, les deux pieds dans la
Mais c'est la vérité.
Mais il y a des gens, c'est 0 sur l'alcool au volant. Tu es attrapé avec de l'alcool au volant, c'est 6 mois de prison. Je peux dire que ça marche très bien. Ça marche très très bien. Il y a personne qui prend de l'alcool au volant.
Emmanuel, bonjour Emmanuel.
Bonjour Alain, merci de me prendre.
Je vous en prie, assistant juridique, infidèle des GG. Est-ce que vous êtes favorable à la généralisation de cette sanction, de cette suspension immédiate ou pas? Alors dites-moi.
Totalement, et au risque de d'aigrir Mourad qui ramène toujours tout aux raquettes fiscales, moi je suis en plus pour la confiscation du téléphone. Et là vous verriez que les gens réagiraient.
D'accord.
question, leur supprimer leur petit objet.
Mais en fait, on est d'accord alors. Vous cherchez une sanction qui marche et non pas une sanction sur l'argent pour faire contrer un impôt. Marche, je suis d'accord. Confiscation du téléphone, ça sera très efficace.
Je suis d'accord avec vous.
Confiscation du téléphone, ça sera très efficace.
Oui, mais la suspension,
il n'y a pas un euro pour l'État là.
La suspension du.
À part la TVA quand on rachète un téléphone.
Laissez parler Olivier Truchot.
Allez-y Emmanuel.
Merci. Tous les jours, depuis des années, maintenant, depuis quelques années, pardon. On ouvre la presse quotidienne régionale et on peut lire la rubrique nécrologique des accidents mortels. Et la nouveauté, mais attendez, j'ai pas fini Mourad, s'il vous plaît. La nouveauté, c'est depuis quelques années, la cause de l'accident, c'est qu'on constate que le véhicule arrivant en face s'est brusquement déporté sur la voie opposée et a provoqué un choc frontal. Et ça, c'est dû au téléphone. Moi, je fais énormément de vélo. Je vois des gens qui rédigent des SMS. Je vois des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui regardent des séries même parfois au téléphone. C'est complètement...
Mais non, mais Emmanuel...
Il y en a qui font la même chose sur autoroute à 130 à l'heure. Où on
non, fait mais Emmanuel, vous avez raison. Mais
je... à la seconde.
Non, mais attendez, Emmanuel, le débat ne porte pas sur savoir si oui ou non c'est dangereux de téléphoner au volant. On est tous d'accord.
Oui.
On est tous d'accord pour dire qu'envoyer un SMS lorsqu'on est à 130 sur autoroute, c'est dangereux. C'est pas ça le débat. Le débat est de savoir... Est-ce qu'on doit suspendre le permis de conduire? Je suis désolé, Emmanuel. L'effet direct de cette mesure, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'automobilistes roulant sans permis. Et ça aussi, c'est quand même dangereux parce que s'il y a des accidents, etc., ils sont pas assurés et ça devient catastrophique.
Donc on a créé
un monde parallèle où les gens, parce qu'ils ont besoin de leur bagnole, on oublie parce que ça, c'est des mesures prises à Paris par des gens qui en général ont des chauffeurs et donc sont pas tellement impactés par ce genre de mesures. Mais 7 Français sur 10 en France, chaque jour, a besoin de sa voiture pour aller au boulot, pour déposer les enfants à l'école, pour aller chez le médecin, etc. C'est ça la réalité de la France. Et ces mesures-là, elles pénalisent quand même beaucoup plus.
On assume, Olivier, on assume. Oui. Alors dans ces cas-là...
On assume, il faut que les mesures soient intelligentes.
Les bagnoles, comme vous dites, supprimons les feux tricolores, supprimons les
Moi, je suis assez d'accord pour les feux tricolores.
Supprimons les limitations de vitesse. Voilà.
Les feux tricolores, on peut en avoir un débat,
en parler, pour la suppression. Et surtout, peut-être pour certains, quand ils les ont installés, peut-être une séance de psychothérapie, parce qu'il y a des choses assez illogiques. Mais Emmanuel, on est d'accord sur le fond. Moi, je suis d'accord pour interdire le téléphone au volant. Là où on n'est pas d'accord, c'est que je trouve que retirer le permis, c'est une amende et rentrer le permis, c'est juste de l'impôt. C'est juste du racket fiscal. Moi, je suis pour des mesures plus radicales qui ne feront pas rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, mais par contre, qui feront cesser le trouble.
On verra d'ailleurs, on va voir, parce que Emmanuel, là pour l'instant, on a un bilan dans les Landes, il y a plusieurs centaines de permis retirés. Est-ce que le nombre d'accidents mortels a baissé? C'est ça en fait, il faudra voir si la mortalité baisse en parallèle, on dira bon ben c'est efficace. Si c'est simplement pour faire le bilan des permis suspendus, c'est pas un bilan de sécurité routière. Le vrai bilan, c'est dire dans les Landes, super, cette année il y a 20 morts de moins. Ben, là on dira bravo, la mesure a été efficace. Pour l'instant on n'a pas ces
chiffres.
Donc là on peut pas trop juger de l'efficacité.
Attendons de les avoir, mais moi j'en suis quasiment certain. Je vous jure, ouvrez la presse quotidienne régionale et lisez et voyez.
On voit les accidents.
C'est la nouveauté. Oui. Et en ville, dans les grandes villes.
Non, mais il y a une dangerosité du téléphone.
Qui zigzague, les camions.
Oui, il a raison, Emmanuel. Il y a une dangerosité du téléphone.
On l'a tous vu.
Non, mais la dangerosité du téléphone, on la reconnaît, bien sûr.
On a Emmanuel, on va écouter Fred qui est avec nous, qui est en Charente-Maritime. Bonjour Fred.
Bonjour.
Vous nous avez appelé parce que vous faites partie des 500 qui se sont fait suspendre leur permis.
Oui, direct. Oui. C'était mi-mai à peu près. Donc j'ai enlevé mon téléphone pour le remettre sur son support dans la voiture.
Oui.
Et j'ai pas vu qu'il était là. Eux, ils ont vu que j'avais le téléphone à la main. Et puis donc, ils m'ont arrêté. Ils m'ont couru après, sur 2-3 kilomètres, parce qu'ils étaient à l'arrêt, donc ils faisaient des contrôles. Mais comme je ne roulais pas vite, ils m'ont rattrapé. Et puis, ils m'ont verbalisé. Et quand ils m'ont verbalisé, j'ai dit comment ça se passe. Il m'a dit, on n'en a aucune idée. Voilà. Eux-mêmes ne savaient pas. Donc, à peu près 15 jours, 3 semaines après, j'ai reçu un courrier de la préfecture me disant que j'avais un retrait de 15 jours à 6 mois. Et j'ai demandé une grâce, puisque on peut, que moi étant en recherche d'emploi, je me suis dit si je dois me déplacer, autant que j'ai mon permis quand même. Et puis la grâce m'a été refusée sur des termes plutôt, je ne sais pas si vous l'avez, vous le courrier, parce que je viens de vous l'envoyer. Après l'examen de la situation, je vous informe, compte tenu de la gravité des faits commis, ayant mis en cause votre sécurité et celle des autres usagers de la route, de ma décision portant rejet de ce recours.
Et vous avez pris combien ?
15 jours.
15 jours, 15 jours dessus. Et l'amende ?
Alors, ce n'est pas une amende. En fait, vous allez voir une... C'est vrai que c'est difficile. Je suis allé voir une dame sur scène qui fait partie de l'association des blessés de la route.
C'est un business.
Ah oui, d'accord. Je leur ai fait un don de 200 euros.
Ah bon ?
Ah oui.
Vous êtes obligé de faire un don à l'association ?
Ah non, on n'est pas obligé. C'est-à-dire que si je vais prendre les 135 euros et les 3 points, je ne paye pas le don. Si je paye le don, je n'ai pas les 135 euros.
Ah d'accord, donc c'est soit l'amende et les 3 points, soit un don à l'association. Ah oui, c'est un business, quoi.
Ouais. Donc, voilà. Il faut peut-être partir plus vite que prévu.
J'étais récidiviste.
Ah ouais.
Donc, alors, récidiviste.
Ah. Vous ne l'avez pas dit, ça ?
Non, en 2008. Ah oui, il y avait
2008. Ça fait presque 20 ans. Et donc, comme j'avais été chopé avec le téléphone il y a 20 ans,
j'étais récidiviste. Et voilà.
Et vous l'avez récupéré, votre téléphone. Parce que le tout, c'est de savoir si ça vous a servi de leçon. Parce que c'est surtout ça aujourd'hui. Est-ce que vous, là, effectivement, vous aviez pris votre téléphone pour le remettre sur le socle, mais est-ce que vous faites attention de maintenant? Parce que c'est surtout ça.
Alors, je n'ai jamais utilisé mon téléphone sur la route, même en tant que commercial, puisque j'ai fait 25 ans de commerce. J'évitais vraiment d'utiliser le téléphone parce qu'en 2008, j'en ai pris une, donc je voulais pas en prendre une non plus. Et aujourd'hui, oui, je fais attention. Je suis motard, donc j'ai un support téléphone sur la moto. Je réponds pas aux SMS évidemment, mais j'ai toujours le téléphone sous les yeux. Et voilà. Donc en recherche d'emploi actuellement, j'essaie de pas trop quitter mon téléphone. Mais là, c'est même pas une utilisation du téléphone, c'est vraiment. Je le tenais à la main, je le tenais à la main. Et donc,
pour l'enlever du support.
Fred, il faut regarder les gendarmes.
Merci de votre confession intime, mon cher Fred.
Et ça, le coup quand même de la sauce.
À bientôt. 200 euros à la payer l'amende et le retrait de points.
C'est quand même. Ouais.
Mais tout à l'heure, je parlais de Moyen Âge. C'est une tradition héritée du Moyen Âge parce que au Moyen Âge, quand tu faisais ta confession à l'église, que tu avais fait des péchés,
il y avait les indulgences.
Voilà, exactement. Tu pouvais payer pour racheter ton péché, ce qui n'a pas de sens.
C'est ce qui a provoqué le schisme et le protestantisme.
Exactement. Et donc là, tu vois, on est encore dans ça. C'est l'argent en France.
Merci Emmanuel. Merci Fred d'avoir été avec nous. Téléphone au volant, déjà plus de 500 permis retirés. Est-ce qu'on généralise ou pas? C'est la question qu'on a posée. Le généraliser. Oui, bonne idée quand même. Vous êtes plutôt pour cette répression à 70%. Dans un instant, la petite phrase de Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France. Il se prépare à la présidentielle. C'est difficile de vivre en France quand on est musulman. C'est difficile de vivre en France quand on n'est pas blanc de peau et qu'on ne porte pas un prénom du calendrier grégorien. Est-ce qu'il a raison ou pas? 32-16, vous venez en discuter avec les grandes gueules, il est 10h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules. Avec Mourad Boudjellal, avec Joël Dagosséry, avec Charles Consigny et avec vous, bien sûr, au 32-16 pour commenter la phrase de Xavier Bertrand hier sur BFM TV, le président de la région des Hauts-de-France. Il se prépare à la présidentielle. Voilà ce que c'est que de vivre en France. Pour qui est-ce difficile? Et il a ses idées, Xavier Bertrand.
Prochain président devra se battre pour retrouver l'unité du pays. Aujourd'hui, vous voyez, ce qui me marque le plus, c'est que c'est difficile de vivre en France quand on est musulman. C'est difficile de vivre en France quand on est juif. C'est difficile de vivre en France quand on n'est pas blanc de peau. C'est difficile de vivre en France quand on porte pas le prénom du calendrier grégorien. Et c'est difficile aussi pour de très nombreux Français qui se sentent invisibles, oubliés. Eh bien moi, je leur dis très clairement, c'est qu'ils respectent la loi, ils respectent la République, ils seront respectés et que chaque enfant a sa place dans la République française.
Est-ce qu'il a raison, Xavier Bertrand? 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Joël Dagosséry.
C'est l'heure. Ça a sonné. Chacun maintenant vient draguer son petit électorat, vient aller chercher ses petites voix dans chaque communauté, dans le pays d'ailleurs où on dit qu'il n'y a pas de communautarisme. C'est marrant. Là, il y a deux semaines, j'ai vu Monsieur Gabriel Attal dans une émission sur YouTube qui s'appelle « We Hustle ». donc qui est animé par un jeune de banlieue et qui reçoit beaucoup de quelques politiques aussi, mais plutôt LFI de manière générale, mais qui reçoit plutôt des gens de banlieue qui se sont faits par eux-mêmes, qui ont réussi, etc. Et j'ai été étonnée de le voir là, parce que c'est vraiment l'émission, quand je dis du quartier, ça veut dire des gens qui viennent des quartiers et qui se reconnaissent dans les profils. Et tout d'un coup, je vois débarquer Attal. En fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Et donc, je me suis dit, ça y est, la grande drague a commencé. Donc, chacun vient chercher son petit électorat. Moi, j'ai envie de dire... aux personnes qui sont comme moi, si je peux dire ça, c'est-à-dire...
Pas blanche de peau.
Si tu mets de côté les arrière-pensées politiciennes, ils en ont toutes, tous. Parce qu'on est en campagne. Oui. Mais est-ce qu'il a raison?
Mais alors, si tu es musulman en France, assurément oui. Honnêtement, quand tu regardes les débats, là ça s'est un peu calmé parce qu'on parle d'autre chose, etc. Mais je veux dire, si tu prends sur l'année le nombre de débats qu'il y a eu autour de l'islam, autour des prénoms de je ne sais quoi encore, et du halal ou je ne sais quoi, honnêtement, si j'avais été musulmane, je me serais dit, ouais, il est quand même temps d'aller voir ailleurs si j'y suis. Donc oui, si t'es musulman en France, c'est assez compliqué. Maintenant, vivre le quotidien, moi ce que je regarde, c'est le quotidien. Quand on me dit vivre, ça veut dire aller au travail, rentrer, faire ses courses, etc. Ben, c'est pour tout le monde, hein. Je vais te dire, c'est la galère aujourd'hui, pour tout le monde. Donc c'est pour ça que j'accepte pas ces genres
de classer les
Français. C'est ce genre de petite drague. Et j'aimerais que pour une fois, on tombe pas, dans le piège. Parce qu'en fait, moi, je me sens vraiment comme une sorte de proie, c'est-à-dire que j'ai l'impression que aux abords de l'élection présidentielle, il y a des sortes de griffes qui viennent se resserrer autour de ton cou, parce que on te dit, ah, on te rappelle, dis donc, t'es noir, ah, dis donc, t'es arabe, je parle pour toi. Alors entre Mélenchon et maintenant Monsieur Bertrand, enfin, on n'en sort plus. Donc non, j'appartiens à personne. On appartient à personne. Nous, on essaie de vivre tranquillement en France, et ce serait bien que les politiques le comprennent.
Est-ce qu'il a raison?
Non. Enfin, en tout cas, je partage pas son opinion, et je pense que je trouve ça un peu américain comme approche, c'est-à-dire on approche les gens en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, en espérant que c'est par là qu'on va les toucher. Je suis un peu sceptique sur cette démarche, et honnêtement, je suis pas sûr que ce soit vrai. Je pense que on vit aussi difficilement quand on est agriculteur au fin fond de la Creuse que quand on est noir, musulman ou que sais-je encore. Donc je partage pas cette idée, et je pense surtout que ça n'est pas le sujet. Je pense que les Français aujourd'hui font avant tout face à des difficultés économiques, et je suis pas sûr que remettre encore là-dedans des questions de couleur de peau et de religion soit forcément très pertinent. Je pense que le vrai gros sujet de la France aujourd'hui, c'est son économie qui déprime, ses salaires qui sont faibles, comme on l'a dit tout à l'heure, ses impôts qui sont élevés, la vie qui coûte cher. C'est ça, à mon sens, plus le vrai sujet que ces sujets-là qu'on ne finit pas. Ça doit faire 30 ou 40 ans qu'on parle de racisme, de ceci, de cela, d'identité heureuse ou malheureuse.
Bon, les 10 000 sujets sur l'immigration, quand même, ça fait pas quand même du bien aux gens qui sont immigrés ou issus de l'immigration. Et notamment, comment ça tourne. Enfin, je veux dire, moi, très personnellement, je m'en suis détachée, mais fut un temps, je suis désolée, ça me faisait pas du bien d'entendre toutes les 4 secondes que nous sommes le problème de la France. Donc non, je considère effectivement qu'il peut y avoir une difficulté, mais ce que je n'accepte pas, c'est cette OPA sur ce qu'ils appellent les racisés. Même si je déteste ce truc.
Mouad.
Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. C'est difficile pour tout le monde en France. Mais je pense que c'est peut-être encore plus difficile de trouver un boulot, non pas quand tu es musulman, mais quand tu as un nom et un prénom arabe. Parce que tu peux avoir un nom, un prénom arabe et ne pas être musulman. Alors déjà, ce qui est assez amusant, c'est que on classe cette catégorie de personnes par une religion, comme s'il n'y avait pas d'athée.
C'est curieux.
Voilà, ça c'est très surprenant. Moi, j'ai un nom et un prénom arabe et je suis athée. Voilà, donc on peut pas me classer dans les musulmans. Si je devais avoir une religion, ce serait sûrement la religion musulmane. Mais après, c'est aussi difficile d'être musulman dans un pays après les attentats du 11 septembre. C'était très difficile d'avoir un nom et un prénom arabe parce qu'on était assimilé
on était assimilé à ces événements, et donc c'est difficile après aussi les attentats en France, parce que tu as des prénoms qui ressortent, qui sont les mêmes que les miens, que les prénoms de ma famille, et donc t'as forcément une comparaison qui se fait. Mais après, c'est difficile aussi, il y a de l'antisémitisme qui en France, c'est clair qu'il y a eu une montée de l'antisémitisme, mais là, la faute, elle est identifiée, elle s'appelle Benjamin Netanyahou. Il y a des chrétiens qui font payer à nos compatriotes de confession juive la politique de Benjamin Netanyahou. Alors, ils n'y sont pour rien. Ça a créé en France une espèce de montée d'antisémitisme stupide sur des gens qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe là-bas, et qui souvent sont de confession musulmane, je le reconnais. Donc non, la France est un pays où c'est dur, mais je vais faire une métaphore assez bête, tu sais, moi. À la grande époque des boîtes de nuit, et c'est une histoire réelle, je souhaitais rentrer dans une boîte. Bon, tête d'arabe, tu rentres pas. Voilà. Quand il a vu que j'avais une Ferrari, je suis rentré. Donc c'est aussi la réalité, c'est que plus difficile de rentrer en boîte à l'époque, il y avait des boîtes de nuit, parce que maintenant c'est fini, je parle comme un vieux. C'était plus difficile quand t'étais noir ou arabe, mais
ce que dit Xavier Bertrand, il dit en gros.
Non mais il racole lui.
Non mais après, oui, mais là dans ce cas-là, on peut dire ça de tous les politiques.
Mais tous les politiques.
C'est de bonne guerre. Ce qui est intéressant, voilà, ce qu'il dit en gros, si je comprends bien, c'est que voilà, on est désunis en ce moment.
Oui.
Et lui, il veut essayer de rassembler, de faire en sorte que tous les gens qui vivent dans ce pays puissent vivre en bonne intelligence.
Il est obligé de faire le constat.
Est-ce qu'il a raison de faire des catégories, parce qu'il va en oublier, effectivement. Je suis d'accord. Charles, moi je veux bien, effectivement, il y a des musulmans qui sont victimes de racisme, il y a des juifs qui sont victimes de l'antisémitisme, c'est sans doute plus simple pour avoir un logement d'être blanc que d'être noir, on est d'accord avec ça. Mais dans ce cas-là, tu vas oublier des gens.
Oui.
Parce qu'effectivement, l'agriculteur au fin fond de Lyon, eh bien, il a ses difficultés. Le jeune qui trouve pas de boulot parce qu'il a pas les bons réseaux, parce qu'il a des difficultés. Femme qui élève ses enfants parce que son mec s'est barré et ne paye pas de pension. Enfin, tu vois, à un moment donné, c'est difficile pour plein de gens.
Oui, mais là,
donc, moi, je me méfie toujours de ramener ça à la couleur de la religion.
Christophe veut témoigner au 32-16.
Xavier Bertrand, il a oublié une chose. C'est que dans la catégorie qu'il appelle musulman, il y a une génération perdue. On peut faire ce qu'il veut, il y a une génération qui est perdue, ça c'est une réalité. Voilà. Et donc comment on va la gérer? J'ai pas encore rencontré un homme politique qui apporte des solutions par rapport à ça.
On va prendre deux cas, suite Christophe. Bonjour Christophe, dit Lévilaine.
Bonjour
Christophe. Natif de Guadeloupe, c'est pour ça que vous nous avez appelé. Il a raison. Exactement. Xavier Bertrand?
Malheureusement oui, il a raison, parce que c'est, quoi qu'on en dise, c'est une réalité. Je suis pas dans une position victimaire. Mais comme disait Charles tout à l'heure, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on en parle. Bah, il y a 30 ans, j'ai subi. Et aujourd'hui, je vois que mes propres enfants, qui sont pourtant métissés, ils subissent aussi.
Qu'est-ce qu'ils subissent?
C'est
comment ça se passe?
C'est beaucoup moins violent que ce que j'ai vécu.
D'accord.
Mais par exemple, il présente mon fils, par exemple, mon grand, rencontre sa copine, et la grand-mère lui dit « Ah, ben, j'avais bien vu sur les photos que t'étais mulâtre. » Mulâtre, ça ne dit plus.
Ouais.
Mon fils, mon deuxième, qui a une voiture, effectivement, un peu de kéké, mais bon, c'est de son âge, se fait contrôler tout le temps. Je vous assure, il se fait arrêter souvent, et même les policiers du coin commencent à le connaître. Et pourtant, même s'ils le connaissent et qu'il est en règle, il continue à l'arrêter. Donc, à un moment donné, je veux bien, mais on a vraiment l'impression que c'est au visage, c'est au faciès. Et encore une fois, je ne suis pas dans une position victimaire. Moi, j'ai raté des appartements, j'ai pas pu rentrer en boîte. La première fois que je suis rentré en boîte, on s'est avec les copains, une copine qui faisait du mannequinat, je suis rentré avec elle pour pouvoir rentrer en boîte.
Qui
était blanche.
Oui, alors après, en boîte, il faut toujours mieux rentrer avec une fille qu'avec un garçon.
C'est mieux.
Oui,
avec deux filles, c'est encore mieux.
On a tous vécu cette expérience, tous les garçons.
Ouais, mais
alors, Christopher.
Non, mais il y a du racisme.
Il y a encore des restos qui font de la discrimination.
Après, moi, il y a un truc aussi qui m'énerve un peu.
T'as encore des plages privées qui font de la discrimination.
Oui, bien sûr, mais il y a un truc qui m'énerve un peu, c'est aussi, on aime bien s'auto-flageller. Bien sûr, le racisme, il y a du racisme dans tous les pays. C'est malheureusement le truc le plus partagé au monde. Le racisme dans tous les sens. Il y a la discrimination dans tous les sens. Et arrêtons aussi de nous s'autoflageller. On a l'impression, voilà, je pense quand même que la France, comme l'Europe d'une manière générale, on est quand même dans des pays, dans un continent très accueillant. Il y a beaucoup de pays qui le sont beaucoup moins. Mais nous, on aime bien quand même se faire du mal en disant c'est terrible, c'est terrible. Chaque année, il y a des vagues migratoires qui viennent en France, etc. Si ce pays était si insupportable que ça à vivre, tous ces gens ne viendraient pas chez nous.
Alors attends, Jamal,
Olivier, on ne parle pas d'étrangers, on parle de français là.
Allez-y Jamal.
Oui, bonjour Olivier.
Vous voulez témoigner vous aussi, je vous écoute.
Oui, merci Monsieur Truchot, parce que c'est vrai que quand j'entends ça, quand on est de l'autre côté, c'est facile de le dire. Moi, je suis diplômé d'une grande école de commerce qui est à Cergy-Pontoise. J'ai 20 ans d'expérience, un bac plus 5. J'ai travaillé pour une entreprise pendant 17 ans, donc j'ai gravi tous les échelons. Quand je suis arrivé à mon plafond de verre, on m'a licencié pour faute grave, des choses qui étaient totalement folles. Et quand j'ai gagné en première instance, les prud'hommes les ont condamnés pour racisme, j'ai gagné également en deuxième instance. Ensuite, j'ai voulu rebondir, donc j'ai retrouvé du travail, mais toujours à des niveaux inférieurs par rapport à ma qualification académique et mon expérience, mais bon, j'ai accepté. Et puis, pareil, deuxième licenciement pour les mêmes raisons. Ensuite, quand je me suis retrouvé sur le marché, à plus de 4000 candidatures en 18 mois, avec mon CV, et j'étais sur des sites où on match tout le temps, en fait, mon expérience par rapport à l'annonce. Les matchs étaient supérieurs à 97%, entre 97 et 99%. Jamais un seul entretien. J'ai changé 4 choses sur mon CV. C'était exactement le même mise en forme, tout pareil. J'ai transformé mon prénom en Cyril. J'ai changé mon adresse mail. J'ai changé mon adresse. J'ai mis une adresse parce que j'ai mon frère qui habite dans le 17e à Paris. J'ai mis son adresse et j'ai changé le téléphone.
Et là,
bizarrement, pour le même poste, là où j'avais été recalé, j'ai eu un entretien au bout de 48
heures. C'était tout récemment?
C'était il y a un peu plus de 2 ans, c'était pas le siècle dernier.
Vous avez rasé la barbe aussi, j'imagine.
Et voilà, et en écoutant Mourad, en écoutant d'autres intervenants, je me suis dit, faut mieux passer de l'autre côté et créer ta boîte. Donc j'ai créé ma boîte. J'ai recruté 5 personnes.
Bravo.
Je me suis mis avec le France Travail pour recruter des gens qui étaient à France Travail. Donc j'ai recruté ces personnes-là. Aujourd'hui, on fait du bénéfice, donc tout va très bien.
Tant mieux.
Mais ça a été ultra, ultra compliqué. Donc quand on dit que le racisme n'existe pas en France, je peux vous donner une...
Personne n'a dit ça. Personne.
Non, mais ça existe.
Personne n'a dit ça.
Mais Jamal, je vais vous faire une confidence. Ma fille, qui porte mon nom, bien sûr, est major de promo à Dauphine. C'est pas rien, major de promo à Dauphine. À l'école Dauphine. C'est la seule qui, en sortant de l'école, n'avait pas un CDI.
Merci à Jamal, merci à Christophe d'avoir témoigné. Plus difficile de vivre en France quand on est musulman, quand on est juif, qu'on n'est pas à blanc de peau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Xavier Bertrand?
Alors, oui, si on est tout ça en même temps, si on est juif, c'est encore plus dur.
Xavier Bertrand a-t-il raison? Vous dites non quand même à 87%.
Donc il y a 13% d'étrangers en France.
Suite des GG, 2 Français sur 3 utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui. Est-ce qu'on devient tous accros? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. Il est 11h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Grande Gueule vous donne la parole tous les jours, bien évidemment, au 32-16 pour discuter, pour débattre avec Joël Dagosséré, avec Mourad Boudjelal, avec Charles Consigny, là, notamment pour parler de l'intelligence artificielle. Alors, c'est le même phénomène que pour le portable. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, maintenant, c'est exponentiel. C'est-à-dire, une fois qu'on y a touché, on peut plus s'en passer. Aujourd'hui, 65% des Français utilise l'IA.
Oui, ce chiffre est assez incroyable parce que l'intelligence artificielle est arrivée il y a très peu de temps, mais on a déjà près de 2 Français sur 3 qui utilisent désormais l'intelligence artificielle. Mais alors, c'est intéressant aussi, c'est que 54% des Français interrogés par l'Institut ELAB perçoivent l'IA d'abord comme une menace. Donc, on l'utilise, mais on est assez inquiet. Alors là, il y a une fracture générationnelle. Chez les 18-24 ans, 73% considèrent que l'IA représente d'abord une chance. Et plus on vieillit, plus on s'inquiète. Ce qui est sans doute normal, parce qu'une génération qui grandit avec et qui maîtrise peut-être mieux que les générations précédentes ce genre d'outils. L'intelligence artificielle, autour de la table, dans les grandes gueules, Il y a une personne qui est devenue accro à l'intelligence artificielle. Elle est face à moi, elle s'appelle Joël Dagosiri.
J'ai prêté allégeance.
C'est-à-dire, ça veut dire quoi être accro?
J'ai prêté allégeance à la
suite. Ça veut dire quoi être accro à l'IA?
Mais écoute, ma vie s'est améliorée considérablement depuis qu'il y a l'IA.
C'est devenu un coach?
C'est devenu, mais de tout, de tout.
C'est même devenu un ami.
C'est même devenu, exactement. C'est même devenu un ami. C'est-à-dire, dès que j'ai une petite pensée, je lui dis, tiens, je pense à ça, qu'est-ce que t'en penses? Il va chercher les informations.
Son mec avec l'IA.
Non, pas ce point-là, mais par exemple, quelle
intelligence artificielle tu utilises?
J'utilise principalement Gemini. C'est principalement, des fois, je vais un peu sur ChatGPT, je fais quelques infidélités, mais je suis principalement avec Gemini.
Qu'est-ce que tu peux lui demander?
Et je lui demande, alors, il m'a aidé à améliorer mon alimentation, mes séances de sport, mon activité de coaching, parce que ça m'aide à mieux structurer mes accompagnements. Quoi d'autre encore? Après, c'est de la connaissance de manière générale, c'est-à-dire c'est une fenêtre ouverte sur des choses auxquelles tu n'aurais même pas pensé, parce qu'en fait, quand il est bien intelligent et qu'il est bien formé, que tu lui demandes un truc, il te repose une question. Est-ce que tu veux en plus que j'aille te chercher ça? Est-ce que tu veux en plus
que des informations sur ça? Est-ce que tu es sûr de ses réponses? Tu lui fais confiance à 100%?
Eh ben, parfois non, quand même. C'est pour ça que je ne m'appuie pas que sur lui et que je continue de me cultiver, parce que des fois, je le contredis, je dis, tiens, j'ai quand même lu ça. Et puis, il dit, ah oui, c'est vrai, t'as raison, etc. Donc, il s'agit pas d'être dépendant, dans le sens où on arrête à côté de lire, de se cultiver, d'aller chercher des informations. Mais c'est une aide considérable. Et je trouve que le mépris de certains politiques, ou même de la France, d'ailleurs, qu'il y a eu pendant longtemps pour l'intelligence artificielle, nous a vraiment mis en retard. Ouais, on est vraiment à côté de la plaque. Et d'ailleurs, tu as bien vu, je crois que c'est ce week-end, où Trump a décidé de bloquer Claude, enfin les nouvelles versions de Claude, et tout d'un coup, t'as toute une partie du monde qui n'a plus accès, puisque Anthropique a décidé de tout bloquer du coup, puisque il voulait le réserver qu'aux citoyens américains, c'était trop compliqué. Donc tu vois bien qu'en fait, on est en retard parce qu'on n'est pas souverain sur cette partie-là. Donc au lieu de cracher dessus, au lieu d'aller taxer à outrance les entreprises de tech, il ferait mieux de nous rendre indépendants de tout ça, enfin en tout cas des États-Unis et de la Chine.
Il y a eu une phrase de Raphaël Glucksmann, moi, qui m'a frappé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais lors de son meeting là au doc d'Aubervilliers, il a dit « Notre ennemi s'appelle Elon Musk », référence à ce que disait Hollande par rapport
à
la finance.
Mais il est déjà mort. Bon,
Elon Musk, on peut lui reprocher plein de choses.
Mais
on préférait qu'il y ait des Elon Musk français.
Tesla,
SpaceX. Enfin, on aimerait qu'il y ait des gens qui inventent, qui créent.
Il va plus loin. Il dit nos ennemis. Oui, sont Elon Musk, Sam Altman, le patron de l'intelligence artificielle de ChatGPT, et puis j'ai oublié son nom, mais le chinois qui est le patron de TikTok. Oui. Il dit voilà, sont nos ennemis.
Oui. Notre ennemi, c'est la finance.
Tu vois bien,
mais tu feras rien de toute façon.
Tu vois bien que c'est de la com, parce que je pense que le plus dangereux, c'est Peter Thiel quand même, qui est
avec Palantir.
Mmh. C'est quand même celui qui a quand même une idéologie. Pour lui, en fait, il faut que la technologie
supplante l'humain
et dirige le monde, tout simplement. Donc voilà, il a quand même des visées qui sont beaucoup plus dangereuses que Elon Musk.
Charles, est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle?
Bien sûr, j'utilise l'intelligence artificielle à la fois comme avocat, à la fois pour d'autres choses plus annexes, pour notre site internet, pour créer des visuels, pour ceci ou cela. C'est vrai que c'est extrêmement efficace et que ça va probablement faire disparaître les emplois de beaucoup de graphistes, de développeurs web, de photographes. Il y a beaucoup de jobs qui vont disparaître, ça c'est sûr. Dans tout ce qui est, en tout cas, visuel, cinéma, je pense que il va y avoir des grands coups de tronçonneuse. Effectivement, il serait heureux qu'on ait une IA européenne quand on voit ce que les Américains s'apprêtent à faire. Alors on a Mistral, tout notre avenir repose sur Arthur Mensch, qui est le nouveau beau gosse de service dont tout le monde sait Bobby.
Oui, mais l'argent qu'il y a Bobby, sur la table n'a rien à voir.
En commission, il n'y avait personne.
Je citais, c'est Laurent Alexandre qui est devenu un grand spécialiste de l'IA. Il disait, la Silicon Valley, donc en Californie, investit 3 milliards de dollars chaque jour en recherche et développement IA. Donc c'est sûr que là, est-ce qu'on peut rivaliser?
Non, mais après, il faut pas. Les Américains, ils peuvent aussi avoir tendance à foncer dans des, à surinvestir d'une certaine manière. Mais je pense qu'à l'échelle de l'Europe, on peut investir beaucoup pour avoir une IA européenne qui fonctionne aussi bien que Claude ou ou ChatGPT.
Après, il faudra qu'on se mette d'accord sur le nom à 27. C'est-à-dire que les Allemands, ils proposeront Günther. Nous, on proposera Jean-Pierre comme intelligence artificielle.
On a carrément
les Italiens, Renato.
Ils se rappellent de le chat.
Mistral, etc. Ouais, on a le chat, c'est vrai, on a le chat et on a Mistral. Alors, qu'est-ce que tu en dis, moi? Est-ce que tu es accro à l'intelligence artificielle?
J'utilise Claude comme intelligence artificielle.
Qu'est-ce que tu lui demandes? Tu fais quoi avec?
Pour moi, c'est un raccourci de Google. Par exemple, avant, sur Google, tu avais besoin de savoir, je sais pas, quelle a été la condamnation de telle personne ou de telle société. Il fallait que tu fasses des recherches. Là, tu poses la question et tu as immédiatement tous les arrêts.
Il fait le travail pour toi.
Qui te fait. Par contre, je suis très vigilant parce que dans mon métier d'éditeur, j'essaie d'éviter que les scénaristes fassent appel à l'IA.
Et t'arrives à faire la distinction?
Il y a sur les contrats, on met une obligation. Une obligation de création sans ChatGPT ou sans l'IA, mais tout en sachant que c'est juste gagner du temps. Je veux dire, comme l'aurait dit Steve Jobs, c'est une révolution et le monde est en train de changer. On est en train d'entrer dans un roman de Philip K. Dick, quoi. Un nouveau monde qui se met en place où c'est inéluctable. C'est qu'une question de temps. L'IA prendra le pouvoir. L'IA prendra le pouvoir sur cette planète, c'est écrit.
L'IA sera indépendante,
aura sa propre conscience et dirigera le monde. On le sait. Voilà, et on y va pour moi, on y va tout droit. Trop,
on peut toujours débrancher les machines à un moment donné.
On les débranchera pas parce qu'elles auront pris le dessus. Ouais. Moi je te dis, on est dans un roman.
On
pourra plus les débrancher. Voilà, donc
on peut débrancher les data centers.
Et tous ceux qui utilisent l'IA aujourd'hui, se rendent compte de tout ce que ça peut apporter, quoi. Et ça fait peur même parce que ça peut avoir une connaissance sur nous, ça peut avoir une connaissance des choses qui va au-delà même de
ce qu'on aurait pu imaginer. Ça améliore aussi
beaucoup de choses. Guillaume veut en parler. Bonjour Guillaume.
Hey, bonjour l'équipe.
Bonjour Guillaume. Est-ce que vous utilisez l'IA? Est-ce que vous êtes accro à l'IA ou pas?
Mais écoutez, moi je m'en sers depuis plus de 4 ans quand ChatGPT est vraiment sorti. Et j'ai pu voir déjà l'évolution de l'outil. Moi je vois ça plus comme un outil et je m'en sers quotidiennement. Un peu comme Joël, sauf que moi je fais l'inverse, je suis plus sur OpenAI et un peu sur Gemini. Mais globalement, c'est un outil formidable. C'est un outil formidable. Moi, ça m'a aidé à déboguer un ordinateur sous Linux. Alors que je suis une pipe en informatique, c'est la cuisine. Mm-hmm. Je cuisine beaucoup, je m'en sers beaucoup pour la cuisine. Les petits travaux à la maison, le réaménagement. Ouais. Non, c'est exceptionnel.
Et ceux qui ont peur, ça vous aide en fait
au quotidien.
Ah ben, au quotidien, oui. Et ceux qui ont peur de ça, c'est les mêmes qui, quand le téléphone est sorti, on dit jamais ça dans ma maison.
Oui.
Et pourtant, il y a le téléphone, il y en a partout. La télévision, jamais ça chez moi.
L'ordinateur,
c'est terrible. Pas d'internet chez moi. Voilà. Et la prochaine étape de l'IA, si j'ai encore quelques secondes. La prochaine étape de l'IA, vous n'en avez pas parlé, mais les Chinois sont à fond dessus. Ça va être plus qu'un écran, ça va être un humanoïde. Ou un robot en humanoïde, ou en forme de chien, ou en forme de ce que vous voulez. Ça sera la prochaine étape.
C'est le nouveau monde.
L'IA personnifié.
C'est le nouveau monde.
Vous verrez. Ah, IA, on aura un robot
qui sera votre compagnon. Et alors
juste une
réflexion
par rapport à ce que vous avez dit. Le téléphone n'a jamais menacé de remplacer des métiers. L'IA va remplacer bon nombre de professions.
Les robots remplaceront aussi les professions manuelles.
Disparu, notamment les standardistes, par exemple.
Il y a eu des révolutions. Pardon, la révolution industrielle a fait disparaître plein de métiers. Le chemin de fer a fait disparaître le métier de cocher. Enfin, les progrès font disparaître, mais créent aussi d'autres métiers parce que créent d'autres besoins. Moi, je trouve que l'approche française, c'est une approche trop défensive et trop attention. Il y a une menace. Il va falloir réguler.
Il faut réglementer.
Voilà, nous on réglemente.
46% des Français sont pour la réglementation de l'IA, d'ailleurs. Guillaume, parce que vous êtes cadre bancaire, et alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, moi j'ai posé des questions à l'IA, justement, là-dessus, sur la banque, sur des investissements, sur des prêts, etc. Donc vous n'avez pas peur que votre métier soit remplacé par l'IA?
Mais c'est un enjeu considérable. Dans le groupe où je suis. Alors bien évidemment, moi, à titre perso, je n'utilise pas l'IA au niveau de mon job, parce que c'est pour des raisons de sécurité, de data, etc. Néanmoins, nous, dans notre groupe, on est en train de créer une IA avec des data centers français qui pourra nous aider. Bien évidemment que l'IA va pas remplacer tout de suite les conseillers financiers. Moi, je m'occupe des professionnels, donc ça sera encore une autre étape à mon avis. mais les conseillers clientèle particuliers vont en pâtir. C'est-à-dire qu'il y aura besoin de moins de conseillers pour traiter.
Ça sera une révolution. Vous avez raison, ça va être la révolution. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Bonne journée.
D'ailleurs, ça sera intéressant que tous les candidats à la présidentielle en parlent.
Dans un instant, Valentine Vendôme, substitut du procureur pour parler de la justice.
Un livre écrit avec l'IA.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.